Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau Mac de l'Immo et pour le présenter, je suis ravi d'accueillir Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Vendredi 9 avril, nouveau Mac de l'Immo, il est 7h passées de 2 minutes, voilà, avec un petit matin encore très frais.
Oui, très frais. En revanche, c'était bien, c'était une courte semaine, hein, vu qu'on a commencé à travailler mardi. J'aime bien les semaines comme ça.
Et ça fait du bien. Alors au sommaire de ce matin, dans quelques minutes, on va revenir, toujours pareil, hein, sur la crise sanitaire. Les effets toujours plus nombreux sur la vie des Français. Et on est allé explorer, tendre notre micro pour savoir comment on faisait, par exemple, pour habiter des résidences secondaires, pour se loger à Paris. Certains veulent acheter. Est-ce toujours un rêve? On va le voir avec nos invités. Et puis, les Français qui éprouvent, Bérénice, toujours une véritable envie de déménager.
Apparemment, oui. Une envie qui s'est intensifiée dernièrement.
Voilà, on aura, comme d'habitude, toutes les rubriques, Aurélie Dantès, Robin Rivaton. Et puis, à partir de 8h, dans moins d'une heure, on retrouvera l'enregistrement de Thibaut Rémy. C'est le patron, tout nouveau patron de Meilleurs Agents. On lui a posé la question, voilà, comment faire pour passer après Sébastien Lafont. Il nous répondra très ouvertement à toutes nos questions, puisqu'on l'avait interviewé il y a quelques semaines avec Johanna Zilberstein. Tout de suite, on démarre le Mac de l'Immo. C'est parti.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
On démarre, Bérénice, avec la crise sanitaire et ses effets toujours plus nombreux sur la vie des Français.
Et oui, avec les confinements, les couvre-feux et reconfinements et le recours au télétravail, les habitants des grandes villes sont nombreux à rêver de se mettre au vert et plus que dans leurs assiettes. Illustration avec un sondage de l'Institut Liberquiz, un Francilien sur quatre est prêt à faire une heure de transport supplémentaire pour aller au travail afin d'améliorer sa qualité de vie. Notre invité est Thomas Venturini, le cofondateur de Liberquiz, et il répond aux questions d'Élodie Rabel.
Bonjour Thomas Venturini.
Bonjour.
Alors dans l'étude que vous avez menée, il y a de plus en plus de Franciliens qui sont prêts à faire plus de transports par jour pour vivre mieux. Comment ça se traduit concrètement?
Alors, en effet, il y a un Français sur quatre qui est prêt à rajouter jusqu'à une heure de temps de transport pour gagner en qualité de vie. Concrètement, il est prêt à déplacer son foyer dans une zone un peu moins urbaine. Et donc du coup à installer chez lui un bureau pour pouvoir travailler depuis son foyer et en même temps de temps en temps se rendre dans le bureau de l'entreprise.
Une heure de transport en plus, c'est pas rien. Est-ce qu'il faut comprendre que les habitudes de travail des Franciliens sont amenées à changer durablement, notamment au niveau de la présence sur lieu de travail?
Alors oui, mais ça ce sera uniquement s'il y a une pérennisation du télétravail, parce que il y a une condition quand même sine qua non à l'éloignement du français sur le travail, c'est la possibilité de télétravailler. Il ne se rajoutera pas une durée de transport si jamais il doit venir au bureau tous les jours. Et c'est d'ailleurs une autre composante de notre étude, c'est que on s'aperçoit qu'un quart des Français déclarent avoir besoin de 3 à 5 jours de télétravail pour pouvoir s'éloigner. Post déconfinement et lorsque la condition sanitaire le permettront de travailler dans les bureaux à nouveau, de manière systématique, la question c'est qu'est-ce que feront les entreprises à ce moment-là.
Qu'attend-on avec cette étude sur les envies des Franciliens en termes d'habitat, je pense, peut-être à la surface, l'environnement, le prix?
On apprend pas mal de choses, on se rend compte que la volonté de s'éloigner du travail est nécessairement lié au gain en qualité de vie. Et donc, cette qualité de vie, elle passe par, selon l'étude, plusieurs, 3 composantes notamment. Un logement plus grand, pour plus d'un tiers des répondants. Et puis ensuite, un espace extérieur ou un plus grand espace, pour à peu près autant de personnes. Et enfin, payer moins cher son logement. Je pense que c'est du coup pour gagner en pouvoir d'achat.
Alors, quitter Paris et sa banlieue, oui, c'est un projet. Mais alors, pour aller où?
C'est la grande question. En fait, on s'est aperçu que il y avait une explosion des recherches avec extérieur ou sur des surfaces plus importantes ou même sur des zones périurbaines, voire des villes, des métropoles françaises qui sont par exemple Rennes, Lille ou Lyon. Néanmoins, on n'a pas encore vu un exode urbain, ou en tout cas de Paris, très très fort. Et donc on attend de voir, je pense que les Français également attendent de voir si les entreprises pérennisent le télétravail pour pouvoir se projeter dans un projet plus long terme qui est réellement de vendre leur logement et d'en acheter un autre dans des zones moins denses.
On a quoi, un engouement sur les villes moyennes ou carrément la campagne ?
Alors, c'est difficile à dire. Je pense qu'encore une fois, on verra ce que ça donne lorsque les entreprises auront acté une pérennisation du télétravail chez elles. Et puis, ça dépendra également d'une autre composante. On en parlait au début du nombre de jours de télétravail que l'entreprise va offrir. Il y a un quart des Français qui déclarent avoir besoin d'un ou deux jours de télétravail par semaine pour s'éloigner de son lieu de travail. Et un autre quart qui déclare avoir besoin de 3 et 5 jours de télétravail. Et ça va varier en fonction des régions. Et également, je pense que lorsqu'on a 3 à 5 jours de télétravail, on peut potentiellement imaginer aller encore plus loin. Donc, c'est des chiffres qui vont, je pense, se cristalliser uniquement lorsqu'on aura davantage de visibilité là-dessus.
Moralité, l'envie des Français évolue avec ce confinement.
Complètement. On a vu une vraie volonté d'exode urbain en 2020. Là, en ce moment, on comprend davantage aujourd'hui les conditions qui vont permettre cet exode, s'il y en a un. Et ensuite, nous, on a une conviction aussi assez forte, c'est que, en effet, vivre à Paris, par exemple, avec une surface relativement légère, où on a une capacité à se projeter, on peut pas aller dans les bars ni dans les restaurants, alors que c'est quand même un des grands avantages de la vie parisienne. Je pense que ça donne des envies d'aller ailleurs. En revanche, lorsque Paris aura réouvert ses bars et ses restaurants, ses parcs, et qu'on pourra de nouveau sortir librement, je pense que ça redonnera en tout cas du cachet à cette ville et une envie à ses résidents d'y rester.
Très bien, merci Thomas Venturini.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Avec les confinements à répétition, les Français éprouvent l'envie de déménager. 25% des Français souhaitent le faire, en tout cas en 2021, un véritable bond par rapport à l'an passé. Mais si elle peut paraître de circonstance, la nouvelle mise sous cloche pour Pâques augmente les envies d'ailleurs des citadins en manque d'espace. Les explications avec Nicolas Tarade.
Paris, métro, ligne 1, station Châtelet, dans les couloirs, sous forme de labyrinthe, la balade prend désormais des allures de voyage à travers la France. Depuis l'été, les campagnes de communication se multiplient sur des affiches grand format. Des départements ruraux font la promotion de leur territoire avec un objectif clair. Chacun espère attirer chez lui ses Parisiens qui se disent prêts à quitter la capitale pour prendre la clé des champs. Selon le baromètre 2021 réalisé par l'officiel du déménagement par OpinionWay, 25% des Français déclarent vouloir déménager cette année. Un énorme bond de 10 points par rapport à l'an dernier. Une génération se distingue, les moins de 35 ans, près de 50% d'entre eux se disent que l'herbe est plus verte ailleurs. L'étude montre que parmi ces jeunes, 55% d'entre eux vivent actuellement en appartement et souhaitent bouger vers un cadre plus vert et plus familial. Assez logiquement, ces attentes sont surreprésentées en Île-de-France. Dans cette région, 29% des habitants comptent déménager en 2021, soit 4 points de plus que l'an dernier et 6 points de plus que les aspirations à bouger dans les autres régions. Avec le renforcement du travail à distance, le déménagement est devenu possible pour de nombreux habitants qui peuvent repenser leur temps de trajet dans les transports, mais aussi choisir des espaces de vie plus spacieux à des prix abordables. Des citadins qui disent avoir besoin d'un espace dédié au travail chez eux, autre qu'une table dans le salon. Au final, à force de passer tellement de temps dans leur logement, ils se rendent compte de ses limites.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Acheter à Paris, eh bien c'est un rêve hors d'atteinte pour la plupart des ménages. Bon, c'est vrai que le prix du mètre carré dans la capitale avoisine les 10 500 euros en moyenne, ce sont les chiffres de la FNAIM. C'est 4 fois plus cher qu'il y a 20 ans. Et c'est pour permettre à plus de foyers d'habiter durablement à Paris que la mairie a lancé mardi dernier une opération inédite. Et oui, des logements à prix cassé. 5 000 euros le mètre carré pour une durée de 99 ans. Alors attention, info importante, la taxe foncière sera à la charge des futurs propriétaires. Pour en parler, l'adjoint au logement à la mairie de Paris, Yann Brossa, qui répond aux questions d'Élodie Ravel.
Bonjour Yann Brossa.
Bonjour.
Alors divisé par 2 le prix du mètre carré à Paris, on peine à le croire. Comment c'est possible techniquement ?
C'est possible grâce à un nouveau dispositif qui n'existait pas jusqu'à présent et que nous mettons en place. Ce que nous faisons, c'est que nous dissocions le foncier du bâti. Ça paraît un peu technique, mais ça veut dire la chose suivante. Normalement, quand vous achetez un logement, vous achetez à la fois les murs et vous achetez aussi le sol, ce qu'on appelle le foncier. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de dissocier les deux, c'est de faire en sorte que la ville, la municipalité, garde la propriété du foncier et elle ne vous vend que les murs. Et c'est ce qui nous permet de vendre à 5 000 € du mètre carré à Paris, soit deux fois moins cher que le prix normal de marché, qui tourne plutôt autour de 10 000, justement parce que vous n'achetez que les murs et pas le foncier qui lui reste propriété de la ville.
Donc ces fameux appartements à 5 000 € le mètre carré, ils seront aux futurs propriétaires valables pendant 99 ans. Qu'est-ce qui se passe passé ces 99 ans ?
Le plus probable quand même, c'est que la personne en question meure avant l'échéance des 99 ans, à moins de vivre 130 ans. À ce moment-là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que votre héritier ou votre héritière soit en dessous des plafonds de ressources qui sont exigés pour ce type de bail. Et à ce moment-là, il en devient propriétaire et le bail se recharge pour 99 ans, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro. Soit il est au-dessus des plafonds, donc il a des revenus trop importants pour pouvoir en bénéficier. Et à ce moment-là, il doit revendre cet appartement et il le revend à un prix qui est encadré. C'est le prix d'acquisition du logement revalorisé par l'inflation.
Cette opportunité va attirer du monde, plus de monde que de lots disponibles, on s'en doute. Comment va se faire la sélection ?
La sélection, elle se fera de la manière suivante. D'abord, il y a des critères pour y avoir droit, des critères qui sont des critères légaux. Il y a des plafonds de ressources, c'est-à-dire que ça s'adresse à des familles de la classe moyenne. Pour une famille avec deux enfants, il s'agit de gagner moins de 5 000 € par mois. Il faut aussi que ce soit votre résidence principale, il ne s'agit pas de louer ce logement, hein, il s'agit d'y habiter. Et puis il y a aussi un certain nombre de critères qui ont été fixés par la ville de Paris, en plus de ces critères légaux, notamment un bonus qui sera accordé aux gens qui vivent en logement social et qui du même coup quittent leur logement social dans le cadre d'un parcours résidentiel pour pouvoir acheter un appartement, ce qui permet du même coup de libérer un logement social du même coup. Donc il y a ces critères, il y aura une commission qui se réunira, commission pluraliste avec des élus de la majorité et de l'opposition, et c'est cette commission qui sélectionnera les dossiers.
Oui, les classes moyennes donc avec enfants, mais on peut imaginer aussi des personnes seules.
Il s'agit quand même vraiment de loger des familles, donc ce sont des logements qui sont relativement grands, ce sont des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces. Donc une cible qui est une cible famille, ça peut par exemple s'adresser à des familles monoparentales, mais en tout cas plutôt de manière globale à des familles avec enfants, celles-là même qui bien souvent sont obligées de quitter Paris lorsqu'elles s'agrandissent et lorsqu'elles souhaitent accéder à la propriété. Ce que nous voulons, c'est que ces familles restent à Paris et donc ce dispositif est un moyen de répondre à ce besoin-là qui aujourd'hui de fait ne trouvait pas de solution dans le marché traditionnel.
Vous venez un peu de les décrire succinctement, ces premiers lots. Histoire qu'on se fasse une idée, à quoi ça ressemble ces logements à prix cassé ?
Ce sont des logements qui sont tout à fait normaux, des logements qui seront neufs, puisque là on parle de logements qui sont à construire, qui seront livrés en 2024-2025. Ce sont des logements qui seront d'une grande qualité, comme tout ce que nous avons en matière de logements neufs à Paris depuis plusieurs années maintenant. Et donc il ne s'agit pas de faire du logement low cost, ce sera de fait du logement à prix cassé, mais ce sera du logement de qualité.
L'objectif, c'est 6 000 logements à prix cassé. Comment vous allez tenir cet objectif ?
D'abord, on a d'ores et déjà 1 000 logements qui sont programmés avec des lieux, des sites, du foncier qui a d'ores et déjà été déterminé. Et nous souhaitons effectivement aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, nous allons continuer à acheter du foncier de deux manières. D'abord, il y a du foncier disponible, du foncier SNCF notamment, et la préemption d'immeubles de bureaux, la préemption d'immeubles de garage. Nous venons par exemple de préempter un immeuble de garage dans le 19e arrondissement rue Rebval à Belleville qui sera transformé en logement à 5 000 € du mètre carré. Donc vraiment, tous les leviers seront utilisés de manière intelligente et astucieuse pour faire en sorte qu'on puisse sortir massivement des logements de ce type-là.
Merci Yann Brossin.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Radio Imo, c'est vous les journalistes. C'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts. Agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux? Les experts d'Allo Radio Imo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Imo. Alors, à vendredi!
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Imo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Quand le bâtiment va, on le sait, tout va, n'est-ce pas Bérénice ?
Alors je connaissais quand l'appétit va, tout va, mais le bâtiment, vous me l'apprenez, Floris.
Eh ben, le bâtiment, ouais, effectivement, c'est ce qu'on dit en fait, sauf que cette fois, ben, voilà, rien ne va plus. Pénurie de matériaux de construction, hausse historique des prix. Christophe Bordet est allé mener l'enquête, les professionnels s'inquiètent.
Pénurie de matériaux de construction et flambée des prix quasi historiques, plus 30, plus 40, plus 50% pour l'acier, le bois ou encore le PVC. Une situation qui s'explique notamment par l'épidémie de Covid-19, mais aussi par les fortes exportations des États-Unis. Tout d'abord, l'épidémie a complètement désorganisé les filières d'approvisionnement. Les usines et les chantiers qui étaient à l'arrêt ont redémarré brutalement. Par ailleurs, le prix du fret, donc du transport des marchandises, a explosé, plus 400% pour les conteneurs qui étaient bloqués aux quatre coins du globe. Enfin, autre problème, la taxe Donald Trump sur le bois canadien. Les États-Unis se fournissent en Europe, ce qui accentue ce phénomène d'augmentation des tarifs. Sur le terrain, cette hausse est d'ores et déjà ressentie par les artisans, comme les constructeurs de maisons en bois qui ont le vent en poupe en ce moment. Certaines entreprises pensent même arrêter temporairement leur activité en ayant recours au chômage partiel et en appellent à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Cette pénurie de matériaux pourrait en tout cas retarder certains chantiers, des retards qui pourraient aller jusqu'à 6 mois. Ça tombe assez mal au moment où l'activité en France et en Europe devrait repartir fortement.
Le Mac de l'Imo, l'emploi dans l'Imo, Aurélie Dantaise.
Il est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir deux nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour ça, on retrouve Aurélie Dantaise, responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur recrutimo.com. La première, ImoSquare, agence madrigale située à Grenoble. Dans le cadre du développement de leur activité de syndic, ils recherchent des gestionnaires de copropriété. La deuxième, Adit Notariat, spécialisée dans la délégation de personnel intérimaire et le recrutement dans le domaine notariat, recrute des formalistes pour une étude parisienne.
Et vous êtes également venu avec un conseil pour les recruteurs et un conseil pour les candidats.
Si j'avais un conseil pour les recruteurs, il est important que vous choisissiez les bons canaux et augmentez votre visibilité à travers votre marque RH, afin que les candidats puissent postuler et vous connaître. Pour cela, il est important de se créer une page entreprise sur des job boards dédiés. Et pour les candidats, aujourd'hui, focus sur le métier de formaliste. Dans toute étude notariale, le formaliste est un poste incontournable, car elle ou lui est responsable de la transmission de l'ensemble des actes reçus par les notaires aux organismes et aux administrations publiques concernées. En clair, sans formaliste, les actes reçus par les notaires n'auront pas la même forme juridique car ils ne seront ni enregistrés ni publiés et ne seraient donc opposables aux tiers. Vous pouvez retrouver toutes les fiches métiers sur recrutimo.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Aurélie, on vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles annonces et de nouveaux conseils. En attendant, direction le site recrutimo.com pour découvrir des milliers d'annonces d'emploi dans l'IMO.
Le Mac de l'Imo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Je vais t'attendre au coin de la rue, à l'heure où les lumières s'éteignent, quand tu auras trop dansé, trop bu. À l'heure où ne restera plus que mon bras pour poser ta peine, mon partira ensemble une fois de plus. Tu m'embrasseras comme je déteste, avec cette tendresse que tu mets si bien entre toi et moi. Bien sûr que le temps a passé, que notre histoire est terminée, peut-être, mais peut-être pas pour moi. Même si je sais que tout s'efface, tu restes là et rien ne passe. Tu m'aimes bien, je t'aime tout court. La différence s'appelle l'amour. Trois tours de périph', fenêtre ouverte, je vois passer ce qu'on aurait pu être. Oui, je t'en veux, mais moins qu'à moi. Et puis pourquoi m'avoir rappelé, pourquoi revenir me chercher, pour te voir rire, te voir pleurer sans moi. Tu veux pas de moi, tu veux pas me perdre, alors ce choix, je le fais pour toi. C'est moi qui pars. Même si je sais que tout s'efface, tu restes là et rien ne passe. Tu m'aimes bien, je t'aime. S'appelle l'amour.
C'était Patrick Bruel avec Tout s'efface. C'est vrai que quand j'entends sa voix, ça me met de bonne humeur le matin.
Allez, on enchaîne le Mac de Limo.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Depuis plus d'un an maintenant, nous connaissons une crise sans précédent. Des périodes de confinement, de couvre-feu se sont succédées. Alors, quel est l'état d'esprit des Français par rapport à l'investissement locatif? C'est ce qu'a voulu savoir la start-up Mastéos, spécialiste de l'investissement locatif clé en main. Son cofondateur, Thierry Vignal, nous parle d'une étude inédite qu'ils ont réalisée en partenariat avec Paul & Roll. Et c'est à votre micro, Bérénice.
Bonjour Thierry Vignal.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et président de Mastéos, qui accompagne les particuliers dans chacune des étapes de leur projet d'investissement locatif. Et vous avez réalisé, en partenariat avec l'Institut Paul & Roll, une étude en ligne en mars dernier sur 1000 personnes pour prendre la température des Français en ces temps si particuliers, pour savoir ce qu'ils pensent des investissements en général et plus spécifiquement de l'investissement locatif. Alors, première question, est-ce que les Français ont perdu la foi vu le montant record de 200 milliards d'euros épargnés en 2020?
Alors, ils ont perdu un peu la foi parce que 2/3, d'après le sondage, pensent que le moment n'est pas propice à un investissement locatif à cause du contexte sanitaire. Le fait qu'ils aient épargné autant, ça montre aussi qu'ils sont bien armés pour la suite. Quand leur crainte vis-à-vis du contexte sera dissipée et qu'ils vont se remettre dans une optique d'investissement, ils auront cet apport, hein, par cette épargne monumentale qui a été constituée pendant le confinement, ils auront cet apport de disponible. Qui dit apport, dit accès à un levier bancaire plus intéressant et donc accès à des projets de plus en plus excitants pour eux.
Si l'on doit faire un classement des investissements préférés des Français, l'investissement locatif se situe où ?
Alors, si on écoute les médias, on a l'impression que c'est le Bitcoin qui est en tête, et c'est pas le cas.
Oui.
Ça reste la bonne vieille résidence principale. La pierre est quand même le placement privilégié en France, hein, depuis le général de Gaulle. 87% d'après notre sondage considèrent l'immobilier comme un placement, je cite, concret, sûr et rentable. Donc voilà, la résidence principale arrive en numéro 1. Numéro 2, juste après, c'est l'investissement locatif. Et ça, on avait fait une étude à l'échelle européenne et c'est vraiment une spécificité française de mettre si haut l'investissement locatif. En France, une vente sur 4, c'est un investissement locatif. Ensuite, on a d'autres formes d'immobilier, donc la résidence secondaire, les SCPI, mais c'est très coloré par l'immobilier, ce classement des intentions d'investissement.
Donc les Français croient en la pierre. Et combien de Français ont pour projet d'investir dans l'immobilier locatif ?
On a 56% des sondés qui ont déjà investi ou qui pensent le faire à plus ou moins long terme. On n'a que 15% qui passent le pas. Et ce décalage entre plus de la moitié qui veulent le faire et l'infime minorité qui passe le pas, elle est liée à 4 grands freins qui sont constatés dans notre étude. Le premier, et c'est la raison d'être d'une société comme Mastéos, c'est la complexité du process. On doit passer par une dizaine d'interlocuteurs différents entre les notaires, les agents, courtiers, banquiers, chefs de chantier, gestionnaires, comptables, fiscaux. Voilà, c'est très complexe, ça demande une palette d'expertise assez impressionnante. Deuxième frein, la peur des impayés. C'est vrai que la France est très protectrice du locataire et du coup, en tant qu'investisseur bailleur, la crainte des impayés est forte. Pourtant, on a des solutions de garantie des loyers impayés de plus en plus efficaces. En troisième position, on a la peur sur les travaux. Et enfin, l'apport. Les Français pensent qu'ils n'ont pas l'apport suffisant, ce qui est contradictoire avec le fait qu'ils ont épargné 200 milliards d'euros pendant le confinement. Mais ils sont persuadés que l'immobilier, ça se finance quasiment cash.
Est-ce qu'il y a un profil type de l'investisseur en 2021?
Oui, alors dans notre étude, l'investisseur est plutôt jeune. L'investisseur type, il a entre 25 et 34 ans. Il vit dans une grande ville, alors c'est pas une surprise, donc une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'il y a un vrai tropisme en ce moment sur la région bordelaise. En tout cas, tout le sud-ouest de la France est vraiment numéro un dans notre sondage. Nous, hors du sondage, à l'échelle de ma société Mastéos, on constate que c'est la métropole marseillaise qui commence à prendre le relais sur Bordeaux. Mais on a effectivement des grandes tendances et quelques effets de mode qui peuvent durer 1 ou 2 ans.
Et ça, vous l'expliquez comment, cet effet de mode?
Ce sont des arbitrages de marché. En fait, les investisseurs, de manière plus ou moins consciente, font une évaluation rendement-risque. Ils repèrent des rentabilités plus élevées dans des villes où le niveau de risque est plus faible. Et ces anomalies de marché, puisque normalement un niveau de risque est cohérent avec un niveau de rendement, et parfois il ne l'est pas, et c'est à ce moment-là que les investisseurs se précipitent. Quand on avait des rentabilités à Bordeaux ou à Lille qui étaient de l'ordre de 6 à 8% pour un niveau de risque qui était extrêmement faible, les investisseurs se sont précipités. Donc ça se fait de manière un peu inconsciente, mais par exemple Marseille, qui était une ville à fort risque locatif, aujourd'hui il est de moins en moins, et on a des rendements rendement qui reste très élevé.
Pour finir, vous qui connaissez parfaitement le marché de l'investissement locatif, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui hésitent à se lancer dans ce projet ?
Ils ont raison d'avoir peur dans le sens où c'est pas une classe d'actifs qui est simple et il faut pas minorer la complexité du process. Ça veut pas dire qu'on est obligé de passer par un intermédiaire comme Mastéos, mais à minimum, faire attention à l'intermédiaire qu'on va sélectionner, sachant qu'il va y en avoir plusieurs, il va falloir en trouver un pour la transaction, un pour les travaux, un pour la gestion, et se renseigner sur les sujets techniques, le notarial, le juridique, l'urbanisme, la fiscalité. Je veux pas non plus faire peur, ça reste la plus belle classe d'actifs, toutes classes d'actifs confondues en termes de couple rendement risque, mais il faut faire ses devoirs. C'est pas une rémunération gratuite, quoi. Ça implique un peu de travail.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Vignal, président et cofondateur de Mastéos, et je vous dis à très vite sur notre antenne.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le groupe Axtom, qui propose aux entreprises et aux collectivités des services immobiliers, a été choisi pour réaliser un village d'artisans au sein du futur quartier de la Lénière, qui fait partie de la métropole européenne de Lille. C'est l'entreprise Ville Renouvelée, aménageur de cette métropole, qui a fait ce choix. Le directeur associé d'Axtom Développement Nord-Ouest, Mathieu Juet, nous en dit plus sur ce grand projet et nous explique pourquoi ils ont été choisis. Et c'est à votre micro, Bérénice Deville.
Axtom, dont le slogan est créateur de solutions immobilières, a trouvé justement la bonne solution pour le futur village d'artisans de la Lénière, puisque le groupe s'est vu confier le projet à la suite d'une consultation d'opérateurs. Mathieu Juet, directeur associé d'Axtom Développement Nord-Ouest, bonjour.
Bonjour.
Bravo, déjà félicitations pour cette victoire.
Je vous remercie.
Où se situera le projet exactement, ce village d'artisans?
Le projet sera situé sur le site en développement qui est de la métropole européenne de Lille et de la SEM Ville Renouvelée, donc c'est le site de La Lénière, qui est situé sur la commune de Waterloo, à proximité de Lille et des portes de la Belgique.
D'accord. Et concrètement, alors, ce projet sera composé de quoi?
Alors, c'est un projet donc de village d'artisans. Qu'on appelle Atpar, c'est nous, Axtom.
De village d'artisans. Hein.
Sous le logo. Oui, c'est un village d'artisans, tout à fait, qui est sur un foncier d'une surface d'un peu plus d'un hectare, 10 337 m² pour être précis, et sur lequel on va développer 3 bâtiments divisibles en plusieurs lots. On a 29 lots prévus, donc 29 cellules d'activité, si vous préférez, réparties sur 3 bâtiments. Et la surface totale est de l'ordre de 5 757 m² pour être précis.
Et donc, ce sera destiné à des artisans qui ont quel profil?
Alors, c'est artisan, patron de PME, PMI. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, ça va être des professions comme électricien, plombier, chauffagiste, des sociétés de publicité, des choses comme ça. Hein, des gens qui ont un besoin à la fois de bureaux, petits bureaux, surface de bureaux et puis une surface de stockage.
Ah oui, il y a les deux du coup, stockage plus, ouais. Plus bureaux. Il y a une consultation d'opérateurs. Comment vous êtes-vous démarqué de vos concurrents?
Alors, on s'est démarqué, je pense, par différents points. On avait d'abord voulu insister sur l'aspect environnemental qui nous tient à cœur chez Axtom. Donc, c'est d'aller un petit peu au-delà des prescriptions gouvernementales. Donc, on va aller ramener un petit peu plus de verdure, un peu plus d'arbres. On va travailler sur des matériaux qui vont être nature. En l'occurrence, sur ce site-là, on a beaucoup de bois. Vous avez pu le voir, je pense, au travers des différentes perspectives. Et puis, on va développer du photovoltaïque sur les toitures. Ensuite, c'est aussi notre flexibilité, je pense, et la typologie des offres que l'on propose aujourd'hui. Sur ces actifs-là, on va aller proposer des petites découpes et donc proposer les premières cellules à partir de 142 mètres carrés, je crois.
Que ne proposez pas, du coup, vos concurrents?
Non, on n'est pas le seul en France à pouvoir proposer ce genre de découpe, mais la plupart de nos concurrents vont commencer à 200-300 mètres carrés.
D'accord,
et
du coup.
Nous, on a cette particularité à Axtom, c'est d'aller chercher justement cette petite découpe. Aller sur un marché qui est pas ou peu développé. Voilà.
Du coup,
et qui répond à une vraie demande d'artisans. Pardon.
Du coup, ces petites découpes vont vous permettre d'attirer plus d'artisans?
Ouais, en fait, elles rendent accessible surtout à des artisans la capacité d'être propriétaires de leur bâtiment.
Alors, justement, vous parliez de l'environnement. L'environnement était vraiment au cœur du débat durant l'élaboration de ce projet, ou c'était un plus que vous avez apporté?
Ça faisait partie des éléments, je pense, qui étaient attendus, et c'est des éléments sur lesquels on a été assez attentifs et on a en tout cas tout fait pour y répondre.
Et vous Vous avez apporté aussi un plus par rapport à la phase de commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est effectivement un des points qui a été, accueilli positivement par le jury. C'est qu'on a on développe l'ensemble de nos parts à part, hein, l'ensemble de nos programmes chez Axom est modélisé en 3D. Et donc, on va commercialiser. On a une application que vous trouvez sur l'Apple Store et sur le Play Store qui s'appelle tout bêtement Axom. Qui est développé par un partenaire qui s'appelle Block in Block et qui nous permet de commercialiser en 3D nos parcs d'activités. Donc, vous pouvez vous balader à l'intérieur, rentrer dans une cellule, ajouter, enlever des options, comme vous le feriez dans un appartement.
Du coup, les artisans vont pouvoir vraiment se mettre en situation avant la construction.
Oui, bien sûr. Ça leur permet vraiment de se projeter. C'est toujours difficile de vendre sur plan. C'est beaucoup plus facile à vendre quand le produit est sorti de terre. Mais quand il n'est pas sorti de terre, c'est difficile pour personne lambda, qui n'est pas habituée, de se projeter sur plan. Donc, on a développé ce système-là qui permet de se balader à l'intérieur du parc de manière virtuelle, si vous préférez.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mathieu Juet, je rappelle que vous êtes directeur associé d'Axtom Développement Nord-Ouest, filiale d'Axtom. Et à très vite sur notre antenne.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
5000 euros le mètre carré, on en a parlé tout à l'heure avec Yann Brossat. Alors, est-ce possible et pour qui ? La ville de Paris a en tout cas commencé à vendre ses premiers logements à ce prix-là. C'est deux fois moins cher que le prix normal. Les explications tout de suite avec Vincent Favéro.
Est-ce une solution pour contrer la flambée des prix à Paris ? Le dispositif de bail réel solidaire, le BRS, entre en vigueur dans Paris en ce début du mois d'avril 2021, comme le révèlent nos confrères du journal du dimanche. Derrière ce terme un peu barbare, le bail réel solidaire, se cache un organisme de foncier solidaire, la foncière de la ville de Paris. Depuis la loi Allure, il est possible pour cet organisme de foncier solidaire de vendre des logements en accession à la propriété à 5000 euros le mètre carré. Et c'est là toute l'actualité. Pour réaliser cet exploit, dans la capitale où le mètre carré se négocie plutôt autour de 10 500 euros, il faut comprendre sur le logement qu'une séparation intervient entre le foncier et le bâti. La foncière rachète et garde le foncier et c'est bien le bâti et lui seul qui est vendu à des acheteurs pour une durée de 99 ans. En complément, le ménage qui s'installe verse une redevance à la foncière, 2,50 euros par mois et par mètre carré pour s'assurer de garder le bien. Un programme très intéressant donc pour des ménages modestes qui doivent se loger dans Paris et qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Ces premiers logements sont donc lancés dans le 14e arrondissement de la capitale. En 2022, ce sont deux autres programmes qui viendront se rajouter. Au total, l'adjoint logement de la ville de Paris, Yann Brossat, détaille une confirmation de 1000 logements. Aujourd'hui, 6000 sont prévus sur l'ensemble du mandat avant 2026. Donc, une division entre le foncier et le bâti permise donc par ces organismes de foncier solidaire. D'autres villes en France devraient suivre la capitale. Nos confrères du Parisien.fr parlent de l'arrivée d'OFC, d'organismes de foncier solidaire prochainement à Lille, Rennes ou encore à Lyon.
Le Mac de l'Immo revient avec Promis, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Christophe Bordet sur Radio Immo. Je vous propose de découvrir ensemble les lieux qui comptent pour les stars. Chaque mois, dans l'émission La Maison où je vis, un écrivain, un chanteur, un comédien nous raconte les maisons, les appartements, les monuments qui ont marqué et qui marquent encore leur vie. Vous êtes curieux ? Alors visitons ensemble leurs espaces de vie. Découvrons leur intérieur, leurs tendances déco. Suivez-nous sur Radio Immo, La Maison où je vis. C'est le vendredi à 20h. On compte sur vous.
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Depuis le printemps 2019, malgré l'actualité, les prix de l'immobilier restent orientés à la hausse. Les maisons individuelles, de leur côté, sont les grandes gagnantes des confinements. Tous les chiffres clés du baromètre LPI Se Loger avec Vincent Favéro.
Crise sanitaire, confinement à répétition, durcissement de l'accès au crédit. Les différentes actualités de ces derniers mois ne touchent en rien l'actualité de l'immobilier sur les prix. Ils continuent d'augmenter. C'est la conclusion du dernier baromètre LPI Se Loger pour le mois de mars 2021. Dans l'ancien, sur un an, en février, c'est plus 7% d'augmentation. En février 2020, on notait plus 5% et en 2019, plus 3,4%. Des chiffres que rien n'affaiblit donc. Du côté du neuf, la hausse est moins marquée, 3,8% sur un an. Les grandes gagnantes de l'année de crise sanitaire que nous venons de traverser, ce sont les maisons individuelles, plus 8,5% sur un an en février. Il y a un an, on notait seulement plus 5,5% en février 2020 donc, et 3,5% en février 2019. Les maisons dans l'ancien qui tirent très clairement donc le marché vers le haut, envie d'espace et de verdure redonnent au logement avec jardin un coup de boost sur les prix. Du côté des marges, sur la France entière, on note une marge de négociation à 5,5%. Si l'on regarde maintenant les territoires, les marges sont plus faibles au sud du pays, environ 3%. Elles sont à environ le double au nord. Ces marges de négociation qui sont aussi plus importantes sur le marché de la maison individuelle encore, et même de 8% en moyenne dans trois régions, l'ancienne région Bourgogne, la Bretagne et l'ancienne région Lorraine. Enfin, il est important de lire ce baromètre LPI Se Loger avec beaucoup de recul et de laisser le temps passer avant d'interpréter au mieux ces chiffres. En effet, habituellement, la demande de logement se redresse en février en passant par plus 13% entre janvier et février. C'était le cas l'an dernier. Cette année, pas de décollage. Un recul est même important, 3% sur un mois. Un signe très compliqué à interpréter, même si l'on en connaît les causes. L'incertitude sur la suite de la crise sanitaire reste l'un des gros points noirs sur la visibilité en 2021 et risque de peser lourd sur les chiffres des ventes du pays pour cette année, à suivre donc dans les mois qui viennent.
Le Mac de l'Immo, permis de démolir, Robin Rivaton.
Comme chaque semaine, on retrouve tout de suite l'édito de Robin Rivaton. Il jette un œil sans complaisance au monde de l'immobilier.
Aujourd'hui, tout le monde parle de l'entrée en bourse de WeWork. WeWork entre enfin en bourse, devrais-je dire. Qui ne connaît pas le succès phénoménal de cet opérateur de bureaux partagés, de coworking, qui a défrayé la chronique ces dernières années en levant près d'une dizaine de milliards de dollars, en prenant des immeubles à bail dans toutes les grandes capitales mondiales, et notamment qui est très connu par les frasques de son fondateur, qui a été licencié, en tout cas sorti, il y a maintenant 2 ans de cela. Il y avait un véritable serpent de mer pour l'entrée en bourse de WeWork. Le feuilleton durait et finalement cela va se faire sur une valorisation de 9 milliards de dollars, très loin des 39 milliards que la société était censée valoir il y a de cela un peu plus de 2 ans. Il faut dire que la crise sanitaire est passée par là, que le taux d'occupation des bâtiments est passé de 72 à 46%, vous laissant imaginer les pertes colossales qu'a engendré la société sur la même période. Mais on peut retourner en bourse même en ayant des difficultés pareilles, et c'est là la nouveauté des années 2020-2021, c'est que se sont multipliés de l'autre côté de l'Atlantique les SPAC. Un SPAC, qu'est-ce que c'est ? Un Special Purpose Acquisition Company, une société qui est créée uniquement pour aider une autre à se coter sur les marchés financiers, et c'est la providence qu'a trouvé WeWork. Il n'est pas le seul, on compte aujourd'hui aux États-Unis 41 SPAC dédiés aux nouvelles technologies dans le secteur de l'immobilier. Plusieurs entreprises emblématiques ont été cotées ces derniers mois via ce type de véhicule. Je pense par exemple à l'Instant Buyer, les gens qui achètent votre maison sous 48 heures, Open Door qui a été coté et qui a été un très gros succès boursier. On peut citer des assurances habitation comme Hippo, on peut citer des brokers et plein d'autres métiers. On peut citer des fabricants de serrures électroniques comme Porsche, on peut citer un certain nombre de fournisseurs de services à domicile et de services de maintenance du domicile comme Latch, et ainsi de suite. Donc la PropTech, les nouvelles technologies de l'immobilier, on le vend en poupe de l'autre côté des États-Unis. Sur ces 41 SPAC, 10 ont conclu des acquisitions. Ça veut dire qu'il reste 31 cibles potentielles de sociétés qui vont pouvoir entrer en bourse, et c'est une manne évidemment extrêmement forte pour le reste du secteur, pour les premiers investisseurs, ceux qui ont soutenu les sociétés au départ. Ces investisseurs, eh ben, on trouve un moyen de monétiser leur participation qu'ils peuvent ensuite réinvestir dans l'écosystème, et c'est ainsi que se met en place une véritable transformation du secteur des nouvelles technologies et de l'immobilier aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, dans le même temps, on a eu zéro SPAC sur ces technologies.
Le Mac de l'Imo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
D'écouter The Weeknd, ça tombe bien, juste avant The Weeknd, avec Daft Punk, c'était Starboy à l'instant.
Exactement, et n'oublions pas que les Daft Punk se sont séparés en février dernier, c'est une triste, triste histoire.
Mais il nous reste plein de tubes, et ça, c'est très bien. A tout de suite pour le Mac de l'Imo, la suite.
Le Mac de l'Imo continue, en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Après avoir vécu 3 confinements, les Français s'emballent pour les résidences secondaires hors des grandes villes, évidemment. Pour l'heure, les prix restent stables, mais si la demande persiste, cette situation pourrait évoluer. Explication de Nicolas Tarade.
Si la crise sanitaire donne des envies de grand air, il est loin, le temps de la résidence secondaire nichée au bord de l'eau. Le mirage de la maison en pierre face à la mer se dissipe. Selon l'INSEE, 23% des résidences secondaires se situent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Lorsque l'on scrute de plus près les quelques 3,6 millions de résidences secondaires en France, soit près de 10% du parc national de logement, la réalité est plus contrastée côté prix déjà. Malgré un renforcement de la demande, aucune tendance inflationniste n'a été observée. Selon le dernier baromètre LPI Se Loger pour le journal du dimanche, le prix des résidences secondaires reste stable au premier trimestre 2021, avec une légère tendance à la hausse de 0,68% en un an sur l'ensemble du territoire. Et dans le détail, certaines zones ont néanmoins connu une hausse des prix, plus 14% en Alsace, plus 8% en Picardie. D'autres, au contraire, enregistrent une baisse comme la Lorraine ou la Franche-Comté. Avec la pandémie de Covid-19, des citadins en manque d'espace et de verdure orientent davantage leurs recherches sur des maisons spacieuses en périphérie des villes. L'année 2020 et le début 2021 marquent aussi le retour en grâce de la résidence dite semi-principale, un concept qui n'est pas nouveau mais qui signe un retour sur le devant de la scène. Selon une étude récente menée par le réseau Barnes spécialisé dans l'immobilier de prestige, 89% des sondés disent vouloir passer plus de temps dans leur logement secondaire et 72% souhaitent même transformer leur habitation secondaire en résidence semi-principale grâce notamment à l'essor des nouveaux modes de travail et aux restrictions sanitaires. Un bémol néanmoins, avec ce troisième confinement dans 16 départements français, les visites sont pour l'heure interdites pour le choix d'une résidence secondaire.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Voilà, on arrive déjà au terme de cette première heure d'info, hein, rétrospective de la semaine. Dans quelques instants, ce sera, Bérénice, eh bien, l'heure de retrouver notre invité. Il y est passé par ce micro il y a quelques semaines. C'était Thibaut Rémy, le tout nouveau président de Meilleurs Agents. Il va nous expliquer son parcours, comment il succède à son patron emblématique, hein, le fondateur de Meilleurs Agents, Sébastien Delafond. On verra ça avec lui. On vous laisse en sa compagnie. On vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.
Et très bon week-end surtout.
Et très bon week-end, à la semaine prochaine.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.